Si vous cherchez à acheter une bouteille
dont vous serez fier,
venue de terroirs que vous ne connaissez pas encore,
qui a de la personnalité,
à déguster à la bonne franquette.
Bref, une bouteille qui vous ressemble, et tout ça sans sortir de chez vous. Rendez-vous sur lepetitballon.com, le site de référence pour la vente en ligne d'une large sélection de vins et d'accessoires. Lepetitballon.com, les vins sans baratin.
T'as toujours envie de déboucher la bouteille d'après. Moi, déboucher une bouteille, ça va faire con de dire ça, mais c'est dire je t'aime, quoi.
Un vin.
Quand tu rentres des États-Unis.
À amener sur une île déserte.
Que tu ne boiras jamais.
Une bouteille.
Pendant tes études à Sciences Po.
Que tu buvais à New York.
À goûter au théâtre de l'œuvre.
Un vin.
À boire après le dessert.
Que tu as découvert récemment.
Pour des vacances all-inclusive.
Une vie. Un destin.
Des vins.
C'est divin du soir jusqu'au matin.
C'est divin.
Bonjour, François-Xavier de Maison. Je suis vigneron catalan. Non, je suis comédien, directeur de théâtre. Et voilà.
Un vin, une bouteille.
La première.
La première.
La première bouteille dont je me souviens, c'est un Bordeaux, donc assez classique, un Ducru Beaucaillou, 80 et quelques, je sais plus si c'était un 85 ou un 86, et on devait être en 89, 90. C'était chez mes parents, dans un petit pavillon à Asnières-sur-Seine. Et c'était, j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça un peu, j'ai pas trouvé ça très bon au début. Et donc, du coup, c'est la première fois, on s'en souvient. On se souvient tous de notre première fois. Je sais pas si on trouve ça très, très bon la première fois non plus. donc, j'ai pas accroché, mais bon, c'est après que c'est... Et c'était l'époque, tu sais, où les Bordeaux étaient pas trop chers. C'était l'époque où les Bordeaux étaient encore tout à fait abordables. Donc, effectivement, bon, on avait une cave. C'était pas rare que... qu'il y ait une bonne bouteille de Bordeaux sur la table.
Un vin, une bouteille.
Pendant tes études à Sciences Po.
Pendant tes études à Sciences Po.
Je rentre à Sciences Po Paris et à côté, il y a LIP et il y a Claude Saint-Louis, qui est aujourd'hui le haut pré, bar des prés de Cyril Lignac. Et c'était un type qui faisait de la grillade et qui avait aussi, lui, une vieille cave à vin avec des vins tout à fait abordables. Donc du coup, j'ai découvert le vin là, en fait. J'avais 23, 24 ans. Au départ, mon initiation au vin, c'est très Bordeaux. C'est des grandes bouteilles à des prix plutôt abordables par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Les Bordeaux, le prix des vins de Bordeaux a explosé. Et à l'époque, on pouvait encore avoir des vins en primeur de Bordeaux abordables. Et sur les tables des restaurants, il y avait encore des restaurateurs qui avaient des vieilles caves. Donc qui ne faisaient pas des coefficients de 5, 6, 7. Il y a des restaurants à Paris, des hôtels de luxe qui font x 7 sur des bouteilles. Donc comment tu veux qu'à un moment donné, tu vois, on puisse accéder à certaines bouteilles. Donc heureusement qu'il y a d'autres régions qui peuvent nous surprendre et heureusement qu'il y a des vignerons qui gardent un certain contact avec la réalité, quoi. À part les oligarques russes, plus personne peut vraiment se payer un Bordeaux. Il y a des grandes bouteilles dans des grands millésimes de Bordeaux, c'est hors de prix. Mais j'aime le Bordeaux, hein. Je suis pas du genre à faire du Bordeaux bashing ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, faut se rendre compte que le vin de Bordeaux ou de Bourgogne est assez onéreux, quoi.
Un vin, une bouteille.
Que tu buvais à New York.
Que tu buvais à New York.
Je pars à New York et là, j'ai des souvenirs d'un cépage qui s'appelle le Zinfandel, qui est un cépage assez récent, en fait, qui est un cépage importé de Croatie, qui est assez épicé et qui donne au rouge une note assez originale. Et je me souviens de Zinfandel de chez Rich, qui est une grande winery en Californie. Et donc, du coup, je découvre les Cabernet Sauvignon de Robert Mondavi, je découvre l'Opus One, je découvre les vins de la Napa Valley, Sonoma Valley, je découvre le vin de Francis Ford Coppola, et puis aussi les Pinot Noirs de la Côte Est. Parce que ce qui est incroyable aux États-Unis, c'est que toute la Côte Est, elle est, je dirais, c'est l'Alsace, quoi. Tu as des Riesling, tu as des Chardonnay de Bourgogne, tu as du Pinot Noir de Bourgogne. Et la côte ouest, c'est vraiment là, les Cabernets, c'est le soleil. Donc c'est deux. Tu voyages vraiment aux États-Unis en termes de goût et de nature de vin. Et là, ouais, voilà, je suis à New York et je découvre tous ces vins-là et j'adore. J'adore les vins du Nouveau Monde, mais j'adore aussi les vins de Nouvelle-Zélande, du Chili, d'Argentine, d'Australie. Je suis assez curieux, en fait. J'aime toutes les régions. À New York, je suis tax lawyer pour un cabinet qui s'appelle PricewaterhouseCoopers. Et en fait, à ma sortie de Sciences Po, bah, je suis rentré dans ce cabinet qui m'envoyait là-bas. Et de temps en temps, c'est vrai que bah, je vais me faire un petit resto où il y a des Américaines qui te font des amazing, oh my God, this is amazing, oh my God. C'est, voilà, New York, c'est quand même un sacré théâtre.
Un vin, une bouteille.
Pour enregistrer un podcast.
Pour enregistrer un podcast.
Gros Hermitage de chez Jaboulet, Aîné les Jalets 2019. Un peu jeune, mais assez délicieux. J'adore le Gros Hermitage blanc. Moi, je suis très ami avec Laurent Combier, qui fait le Clos des Grives, qui est absolument extraordinaire. J'adore les vins du Rhône, de toute façon. Hein. Que ce soit blanc ou rouge, les Châteauneufs. J'aime les Viognier, la Roussanne. J'aime ces cépages là-bas, cette rondeur. Je me régale des vins du Rhône.
Un vin, une bouteille.
Qui t'a fait aimer les vignerons?
Qui t'a fait aimer les vignerons?
Je crois qu'elle est venue avec les rencontres, sur les tournées. Quand j'ai fait mes premiers spectacles, j'ai rencontré pas mal de vignerons. Et derrière le vigneron, je vois tout un parcours. Il y a des personnalités incroyables de vignerons. T'as par exemple mon ami Yves Gangloff. Yves Gangloff qui fait la Barbarine, la Sereine Noire en côte rôtie, qui fait un magnifique Condrieu également. Bah, Yves Gangloff, c'est un musicien. C'est un rocker. Il adore jouer avec son groupe. Il joue de la guitare. Et puis, il a les mains pleines de tanins, tu sais. T'as l'impression que c'est un peintre, enfin, qui vient de finir une œuvre, Yves Gangloff. Il y a vraiment des personnalités dans le vin. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est les personnalités. Donc, c'est vrai que parler du Bordeaux, du Bourgogne, d'accord, mais moi, derrière le vin, je vois le vigneron, sa femme, sa maison, son chien. Enfin, tu vois, j'y suis, quoi. Yves Gangloff, je le rencontre grâce à Serge Goucassian, qui a un petit restaurant à Carpentras, qui fait de la truffe, et qui me présente la famille Perrin, la famille Brunier, Beaucastel, donc Vieux Télégraphe, qui me présente des gens qui travaillent en biodynamie, comme nos amis de Solence, les Isnard, comme Sébastien Massenzi qui fait Fondrèche, en Ventoux. Je rencontre tous ces gens-là de Châteauneuf, et c'est vraiment devenu des amis, tous ces gens-là, et c'est vrai qu'il y a vraiment des personnalités incroyables. Où que je sois allé en France ou en Corse, j'ai rencontré des personnalités incroyables. Même dans le Roussillon, là où je viens de m'installer, t'as des gens qui ont une exigence, une éthique incroyable, qui sont des passionnés, qui sont des poètes, qui te parlent du vin comme ils te parleraient d'une belle femme ou voilà. Ils sont vraiment en connexion, ils sont avec la planète, avec ce qui se passe, avec les enjeux environnementaux. Ils sont vraiment à l'écoute de tout ça. Ils sont au service de leur terre. C'est très très beau de voir comme toute cette génération de vignerons a un peu inversé la tendance de gens qui pouvaient faire cracher la vigne autrefois.
Un vin, une bouteille.
Quand tu décides de changer de vie.
Quand tu décides de changer de vie.
Et je vois les tours s'effondrer, je réalise que je veux plus perdre ma vie à la gagner, que la vie est trop courte et que j'ai envie de tout plaquer pour devenir artiste. Et parce que c'est une question d'oxygène, c'est une question vitale. Et effectivement, je rentre en France avec mes maigres économies, puisque j'étais dans un secteur où il y a de l'argent, mais j'étais encore au bas de l'échelle, quoi. Tu vois, je démarrais, donc j'avais 28, 29 ans. Et là, ensuite, je rentre en France, j'écris mon spectacle, Samuel Le Billon me produit, je rencontre Antoine Decaune avec qui je fais Coluche. Et ensuite, il y a cette carrière au cinéma. Et plus j'ai vieilli, plus j'ai tourné, plus j'ai voyagé en France avec les tournées, les tournées de films ou de spectacles, ou les tournages. J'ai vraiment découvert différents terroirs, différentes manières de faire le vin. Et je réalise à quel point je ne sais rien, en fait. Plus tu en sais dans ce domaine, moins tu en sais. Ça pousse à l'humilité, à la modestie. Il y a autant de façons de faire le vin que de regard sur la vie, quoi.
Un vin, une bouteille.
Quand tu rentres des États-Unis.
Quand tu rentres des États-Unis.
J'en ai tellement des souvenirs de bouteilles. Qu'est-ce que je peux te parler de l'Anglore d'Eric Pfefferling sur Tavel? Moi, c'est des vins que j'adore. Les vins de Gaillard, encore des vins du Rhône, qui étaient encore pas trop chers à l'époque non plus. Je bois peut-être mes premières Granges des Pères à cette époque, mes premiers. Mais voilà, et puis voilà, en fait, c'est récemment que j'ai renoué vraiment avec des amis sommeliers comme Guillaume de Serval, qui est vraiment quelqu'un qui a une vraie connaissance du vin, qui est vraiment un type formidable, Guillaume, j'adore. Juan Arbalès ou Julien Dubois, qui sont toute une bande avec qui on boit beaucoup de bouteilles. Bon, bah, ça va de la Corse à la Bourgogne, en passant par le Rhône, en passant par le Ventoux, par la Loire, les Chenins, c'est merveilleux, les Chenins de Jacques Iblot, de la Taillolou. Moi, je suis fou du Chenin, je trouve que c'est un cépage extraordinaire. Non, il y en a tellement que je ne saurais pas te résumer à une bouteille ou, tu vois.
Un vin, une bouteille.
À ouvrir avec Coluche.
À ouvrir avec Coluche.
Bah, je sais pas s'il buvait beaucoup de pinard, Coluche. Je crois qu'il était champagne, il était bière, je sais pas s'il buvait beaucoup de pinard. J'ai pas abordé cette partie du personnage. Je crois qu'il aimait d'autres produits de l'agriculture biologique.
Un vin, une bouteille.
À déboucher en Corse.
À déboucher en Corse.
Ma mère est du Nebbio et donc du coup, c'est vrai qu'il y a il y a ces vins de patrimoniaux que j'adore. Antoine Arena, qui est un ami, qui a vraiment, pour moi, renouvelé le terroir corse, qui fait des Bianco Gentile ou des Gentile ou des. Ses enfants qui ont repris aussi les domaines, ils font des Carco, enfin, c'est des vins blancs extraordinaires. Et voilà, t'as toute une. Je suis ami aussi avec Yves Canarelli, qui fait qui a des vignes préphylloxériques en Corse. C'est-à-dire que c'est des vignes qui datent voilà, avant la maladie, voilà, qui a frappé tous les vignobles fin 18e. Et donc, du coup, c'est vraiment un terroir extraordinaire. La Corse, t'as des vins extraordinaires de Gentile, de Orenga di Gafori, de Clocolombo, de. Tu as tous les vins d'Antoine Arena, tu as les Giudicelle, tu as Sirocco Granit de chez Vacchelli. Tu as tous les vins de Jean-Charles Abatucci, que ce soit tous ces vins de l'Empire, là, cette déclinaison de général d'Empire, ministre, etc. Et l'Issoniou ou les Terra d'Orasie de mon ami Yves Canarel, c'est extraordinaire aussi. Tu vois, c'est difficile de s'arrêter à une bouteille, parce que moi, une bouteille, elle me donne envie d'en déboucher une autre.
Un vin, une bouteille.
À boire en tournée.
À boire en tournée.
Dès que j'arrive dans une région, je veux boire local. Donc je veux découvrir le meilleur de la région. Souvent dans ma loge, après on boit un coup, après on va dans un resto où là on fait péter les bonnes bouteilles du coin. Et puis souvent on finit avec mes techniciens dans la chambre d'hôtel et on boit d'autres trucs. Donc on s'est quand même pris des grosses caisses, hein, on va pas se mentir. J'ai fait 300 dates avec chaque spectacle. Quand j'entrais à la maison le lundi matin, j'étais pas très bien. Ouais, t'as quand on va à Lyon, on fait péter des trucs de dingue. Quand je vais jouer à Beaune, voilà, c'est des. T'as tous les bourguignons qui viennent me voir. En fait, ça finit par se savoir que j'étais un mec qui aimait le vin, parce qu'à chaque fois, dans la salle, t'as toujours des. Ils savent que j'aime ça et que pour moi, c'est important. Donc, ils viennent souvent avec un flacon, des bouches dans la. De trois quilles dans la loge, et puis ça constitue une espèce d'ambiance comme ça, festive, et après ça s'arrête plus, quoi. T'as toujours envie de déboucher la bouteille d'après. Moi, déboucher une bouteille, ça va faire con de dire ça, mais c'est dire je t'aime, quoi. C'est vraiment. Quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de lui faire goûter, de lui faire découvrir des choses. Donc, est-ce qu'il y aurait une grande bouteille? Ouais, ma première Romanée Conti que j'ai pu boire, que j'ai offert à mes techniciens un jour. On était au Quai des Saveurs, du côté de Metz. Et il y avait une Romanée Conti pas chère du tout, enfin pour ce que c'était, pas chère du tout. Et j'ai cassé ma tirelire et j'ai dit à mes potes techniciens, voilà, les gars, si on doit mourir demain, on aura bu une bouteille de Romanée Conti ensemble. C'était pas la Romanée Conti, c'était un des vins en dessous d'un corton. Mais c'est une bouteille qui est chère, mais bon voilà, le souvenir est éternel.
Un vin, une bouteille.
À goûter au Théâtre de l'Œuvre.
À goûter au Théâtre de l'Œuvre.
J'ai un petit bar au Théâtre de l'Œuvre, exactement, où je sers des vins du Rhône. J'espère y servir bientôt mon vin, puisque je suis depuis 2 ans l'heureux propriétaire du domaine de Mirmanda, qui est un domaine qu'on a créé avec Dominique Laporte, meilleur ouvrier de France, meilleur sommelier de France. On l'a créé dans le Roussillon. Et avec le domaine de l'Èdre, on a voilà, élaboré un blanc, un rouge sur 2018. 60% macabeu, 20% grenache blanc, 20% grenache gris pour le blanc. Et puis, pour le rouge, 60% syrah, carignan, mourvèdre, grenache. Et on a tout vendu. Voilà, c'est parti. Le vin a été très apprécié. C'est une très belle bouteille avec une étiquette blanche, comme ça. C'est la bouteille de la... La forme de la bouteille de la Romanée Conti. On fait vieillir dans des fûts de Pétrus qui nous ont été cédés par Pétrus. Et donc, du coup, il est... voilà, c'est un nectar. Enfin, moi, je l'adore. Il a toute l'intensité que j'aime dans ces vins du Sud. Mais ils ont le fruit, ils ont le... Ils ont... Voilà, c'est gourmand. Enfin, je suis fou de mon vin. Et ben, ça me fait plaisir parce que des amis comme François-Résige Gaudry, Philippe Forbrague, Guillaume Serval, qui sont des gens qui comptent quand même dans les métiers de bouche aujourd'hui, bon, ben, c'est des gens qui apprécient. Et voilà, j'ai des amis restaurateurs comme Piège, Lignac, qui me font l'amitié de le mettre à la carte de leur restaurant. Et donc, c'est un bonheur, quoi. C'est un rêve de gosse qui se réalise de faire son vin. Je trouve que le monde est tellement fou que voilà, j'ai envie de me raccrocher à des trucs un peu essentiels et faire du vin, ça en fait partie. Et je me régale là-bas, je me régale à faire les assemblages, je me régale à développer ce domaine. C'est modeste pour l'instant parce que la production est assez limitée, mais on espère bien le développer de manière très très exponentielle dans les prochaines années parce que le vin plaît. Je crois qu'on a la bonne approche, donc à suivre. Et c'est vrai qu'au Théâtre de l'Œuvre, on sert des bons produits. Il y a des charcuteries d'Éric Hospital, des fromages de Nicole Barthélémy. Tu vois, on est vraiment sur le produit, comme on dit. Et puis voilà, il y a des bons petits vins. C'est important au théâtre d'avoir le moment avant ou après pour pouvoir discuter, se retrouver quand tu as rendez-vous avec quelqu'un, boire un petit coup. Et, ou alors débriefer le spectacle après, ou alors que les acteurs, que les troupes se plaisent. Quand il y a eu Manu Payet, il y a eu... Romain de Fraissinet, bon, lui, il était surtout bière, hein, Romain, on va pas se mentir. Je lui ai offert un magnum de pinard pour la dernière, je suis même pas sûr qu'il l'ait encore débouché. Mais c'est vrai que c'est une bonne mouvance, ce Théâtre de l'Œuvre, qui était un peu dans son impasse, au sens propre, parce que c'est l'impasse tiers, rue de Clichy. On lui a donné un nouveau souffle, voilà, et je suis extrêmement fier de ça. C'est Camus qui disait « Ne dites jamais que vous êtes heureux », mais effectivement, moi, aujourd'hui, tu me parles de mon domaine, tu me parles de vin, tu me parles du Théâtre de l'Œuvre, ouais, je suis heureux. Après, bon, tu vois, on a ses doutes, on vieillit, on a ses angoisses, on a ses... Là, tu me parles de choses qui me font du bien, qui me font plaisir, en tout cas.
Un vin, une bouteille.
Pour une dégustation à l'aveugle.
Pour une dégustation à l'aveugle.
Ça fait très prétentieux parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de trouver des vins, en fait. Donc, notamment l'émission de Gaudry, où j'ai retrouvé le Ducru Boucaillou, en fait. Avec Guilherme et François-Régis Gaudry, très très bon, la maison très très bon, j'ai retrouvé le vin. J'aurais pu me planter, mais bon, voilà. Ce jour-là, j'étais inspiré, ou peut-être qu'il m'a orienté dans ma tête sur des choses par des questionnements, on a fait par élimination, comme le qui est, tu sais, tu te souviens ce petit jeu? Et donc, du coup, bah voilà, j'ai trouvé le vin. Mais j'ai pas le palais d'un spécialiste, et puis c'est pas mon métier, et puis je savais que c'était un Cabernet Sauvignon, que c'était un Bordeaux, que c'était entre 2000 et 2010, parce que c'était un début de vieillissement. Et ensuite, j'ai reconnu Saint-Julien, parce que je suis un fou des vins de Saint-Julien, Léoville-Lascaz, etc. Et là, j'ai dit du Cru Boucaillou comme ça, et il m'a regardé, Guillaume, en me disant, mais d'où il sort, quoi. Et puis, c'était ça. Je pense que c'est lié au fait que j'ai dû peut-être le dire dans une interview et qu'il m'avait, ressorti le truc. Et puis que, inconsciemment, je me suis dit, ah tiens, ils auraient peut-être inconsciemment, tu sais, c'est Slum Dog Millionnaire, hein, à un moment donné, toutes ces réponses, elles ont un lien avec sa vie. Hein.
Un vin, une bouteille.
Qui t'a fait pleurer.
Qui t'a fait pleurer.
Un Rayas 2001. Je crois que c'est une des meilleures bouteilles que j'ai vues de ma vie. Je pourrais encore repleurer maintenant, tu vois. Rien que de t'en parler. Rayas 2001. Rayas, c'est Châteauneuf du Pape. C'est fou. C'est monocépage. Extraordinaire. Rayas 2001, rien que de t'en parler, l'émotion revient. J'étais en Corse, je crois, avec mon ami Pierre Hermé. Il avait sorti ça à un moment donné, et puis il faisait chaud. Et puis son Rayas, il était frais. Oh, c'était fou. La perfection. La perfection. Et le terroir, quoi. Le terroir. Parce que c'est un Rayas, c'est un, ils sont gâtés, quoi. Ils ont un terroir exceptionnel. Exceptionnel. Tu arrives à Châteauneuf-du-Pape, comme ça, et puis tu Rayas, c'est au milieu des pins. Tu as une espèce de parcelle, comme ça, avec un sol un peu sablonneux. La terre fait des trucs magiques, parfois.
Un vin, une bouteille.
Pour des vacances all-inclusive.
Pour des vacances all-inclusive.
Il n'y a pas de vin dans les clubs de vacances. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu me dis, parce qu'effectivement, je pense à des amis acteurs que j'ai vraiment convertis. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout là-dedans. Et tu vois, mon pote Hugo Gélin, par exemple, il n'est pas amateur de vin, mais quand il est avec moi, il boit. Du Vauchel non plus. Mais je me souviens qu'à l'époque, il y avait cette... il se disait avec lui, on peut quand même goûter. Ça doit être bon. Je pense que j'ai converti pas mal de mes amis de tournage à cette convivialité, quoi. Je fais toujours un pot avec l'équipe, tu vois, où on sort des bouteilles, tout ça. J'ai vraiment... Il y a le tournage et puis il y a l'after aussi, c'est important. De partager des moments comme ça avec les gens. Comme des frères, c'est un film qui nous a complètement unis avec mes partenaires. Et on était complètement... Je pense que c'est ça le cinéma, c'est une histoire de famille. Tu dois être bien avec les gens pour que ça se voit à l'écran. Ben là, le dernier film Divorce Club, il y a de ça. Hein. Avec Arnaud, avec Michael, avec Audrey Fleurot, Caroline Anglade. On s'est vraiment sentis bien ensemble, donc ça doit se voir à l'écran. Il faut qu'il y ait une alchimie avec tes partenaires, sinon c'est fabriqué. Enfin, il y a des films où les partenaires sont engueulés, qui sont des chefs-d'œuvre, hein, mais bon, je pense qu'il y a... Moi, je crois à cette notion de famille dans le cinéma. Et puis, tu sais, c'est pas facile de tourner un film... au soleil. On croit que c'est des vacances, en fait. Tu passes juste... c'est des vacances quand t'es allongé sur un transat avec un cocktail. Hein. Mais quand tu dois bosser, tu te lèves très tôt, tu finis très tard. C'est pas de tout repos, quoi. Quand t'es en plein cagnard, comme ça, on a t'as beau avoir une gentille assistante costume qui te met un parapluie pour pas que tu crames, il n'en demeure pas moins qu'il fait quand même très très chaud, très humide. Hein. Puis la comédie, c'est pas un exercice facile.
Hein. Un vin, une bouteille.
À boire après le dessert.
À boire après le dessert.
Moi, je bois tous les alcools, mais en fait, c'est un podcast sur mon alcoolisme, en fait, c'est ça. C'est pas du tout. Moi, je bois tous les alcools. Bah, parce qu'une fois que j'ai fini le vin, une fois que j'ai fini le sucré, je peux plus boire de vin. Donc j'attaque les Dijon, les Rivesalt, les vins, les Mori, les Roms. Mais bon, Roms, c'est Joey Starr, le grand spécialiste. Je m'aventure pas sur ce terrain-là. Mais les cognacs, les armagnacs, les poires, l'abricot du rouleau, qui est un abricot que fait, que distille un grand vigneron acteur, qui est en Bourgogne. Donc il y a plein de choses. Après le dessert, moi je bois plus de vin, je bois que des vins... des vins liquoreux, des vieilles vignes, des choses comme ça. Je reviens plus sur le blanc ou le rouge. Le voyage ne fait que commencer.
Un vin, une bouteille.
Que tu as découvert récemment.
Que tu as découvert récemment.
J'ai bu un vin néo-zélandais que j'ai adoré, un pinot noir, Peary Grange, Peaky Grange, je ne sais plus. Je ne me souviens plus que j'ai adoré. Et tu sais, c'est les bouteilles de vin néo-zélandais qui se dévissent. Et tu te dis, tu sais, t'apportes ça chez des potes, ils vont te dire, mais ils se foutent de notre gueule, ils apportent une merde, etc. En fait, le vin est fou. Donc, il n'y a pas cette culture aux États-Unis, il n'y a pas cette culture du bouchon, tu vois, qui est en Liège, obligatoirement. Donc, c'était de la folie pure. J'aime aussi, j'ai bu les vins de Quintarelli, les Primo Fiore Veneto de Quintarelli. Moi, j'adore les vins de Quintarelli. C'est un vigneron italien. J'en ai bu un récemment de folie. Qu'est-ce que j'ai bu récemment? J'ai un copain qui m'a fait découvrir un vin nature KGB. Je me suis éclaté là-dessus. J'ai adoré. C'est le vin trouble qui ressemble un peu au cidre. Hein. Tu te sers ça, tu te débouches ça, paf, tu t'attaques. Tu peux pas t'arrêter. Quoi.
Un vin, une bouteille.
À ouvrir avec tes potes acteurs.
À ouvrir avec tes potes acteurs.
Il y en a que j'ai pas besoin de convertir. Hein. Manu Payet, il adore ça. Oh bah Manu, il aime tout. Il aime la bouffe, Manu. C'est un vrai connaisseur. C'est vraiment il a vraiment une exigence. Il veut pas mal bouffer. Il supporte pas mal bouffer. Très exigeant. Ouais, Manu, j'ai fait goûter plein de choses. Stéphane de Groot, j'ai fait goûter plein de choses. Stéphane de Groot, il est venu cet été chez moi dans ma maison dans le sud. On a bu des trucs de dingue, on a bu des Mirmanda, on a bu des... On adore avec Stéphane de Grotte les vins de Midjaville. Midjaville, c'est un mec du sud qui s'est installé à Bordeaux, du côté de Côte-de-Bourg. Enfin, du côté des Côtes-de-Bourg, l'appellation Côte-de-Bourg, et qui fait l'Orage, son petit vin. Tu montes, tu as le Roc de Cambe, et tu montes encore plus haut, tu as le Tertre Rotbeuf. Pour moi, c'est extraordinaire. Donc, tu vois, on peut faire des choses extraordinaires et modernes dans le Bordelais, quoi, tu vois. Donc, pour les copains, ensuite, les copains, ils savent du crayoun, ils savent que quand ils viennent à la maison, ça envoie, quoi, ça débouche. Ils sont en confiance.
Un vin, une bouteille.
Pour préparer un film.
Pour préparer un film.
Je veux choisir des films qu'avec des gens avec qui je pourrais boire des bonnes bouteilles. Quoique, certainement des types qui ne boivent pas d'alcool qui sont des génies. Donc, mais ça, je serais le dénicher aussi. Je me dirais, bon, ben voilà, je ne boirais pas avec lui, mais au moins, je sais pourquoi. Ben, je me souviens, moi, sur Comme des Frères, du week-end, on appelle ça notre week-end d'intégration, où ils étaient venus chez moi, Pierre Ninet, Hugo Gélin et Duvauchel, et on avait vécu un week-end de potes. On était censé faire une lecture du scénario, qu'on n'a jamais ouvert le scénario. Mais quand on est rentré à Paris, on était vraiment devenus très potes. On allait en boîte, on s'est limite battus. Enfin voilà, on avait vu les personnalités de chacun. Et on avait rigolé comme des bossus. Et le film n'a pas eu la même couleur. Donc je crois que quand on peut, voilà, avant le film, se faire au moins une bouffe. Ou bon, après, on va toujours prendre une semaine de vacances avec ses partenaires, mais je crois que c'est important. Ouais. Je me souviens d'une bouteille d'Armagnac avec laquelle s'est couché Nicolas Duvauchel et il a dû la bercer comme un... Voilà, longtemps, puisque quand il est remonté avec, il en restait beaucoup moins. On va pas se mentir, il m'a défoncé ma bouteille d'Armagnac. Salut Nico.
Un vin, une bouteille.
À apporter sur une île déserte.
À apporter sur une île déserte.
Une bouteille de Mirmanda. Côte du Roussillon, non. Une bouteille de Rayas 2001, tiens. Est-ce que je prendrais pas un blanc parce que il fait chaud, non? Ouais, je prendrais peut-être un blanc un peu frais. Je prendrais ouais, un Tara di Sogno de Yves Canarelli. Ouais. Un blanc corse, tiens. Voilà.
Si vous aussi vous cherchez à acheter une bouteille,
à emporter sur une île déserte,
qui a de la personnalité,
venue de terroirs que vous ne connaissez pas encore,
dont vous serez fier,
à déguster à la bonne franquette.
Bref, une bouteille qui vous ressemble, et tout ça sans sortir de chez vous. Rendez-vous sur lepetitballon.com, le site de référence pour la vente en ligne d'une large sélection de vins et d'accessoires. Lepetitballon.com, les vins sans baratin.